Alors, Stéphane nous a dit, nous sommes en guerre. Cela peut paraître très en contraste avec ce que le Seigneur a dit aux siens avant de les quitter. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Dieu est le Dieu de paix, il nous a appelés à sa paix. Mais, comme cela a été rappelé, nous avons un grand ennemi, Satan, et les puissances qui sont avec lui dans les lieux célestes, qui vont tout faire pour s'opposer au plan de Dieu pour sauver l'homme. Alors, je vous propose de proposer quelques bases de ce combat dans la parole, de nous poser la question, pourquoi combattre, lutter, pourquoi faire la guerre? Puis, je vous propose de voir très rapidement dans l'Ancien Testament, à travers les combats du peuple d'Israël pour partir d'Égypte pour arriver en Canaan, de voir quelques-uns des combats que le peuple a eu à mener, ce qui peut nous donner des indications sur le type de combat et les ressources que nous avons. Et puis, ensuite, de voir le combat chrétien proprement dit, et quelques-uns de ces aspects du combat dans le Nouveau Testament. Alors, pourquoi combattre? Pourquoi lutter? Puisque notre Dieu est un Dieu de paix, puisque le Seigneur Jésus nous dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». La grande clé, l'explication, c'est que le mal est entré dans la création parfaite par un Dieu saint, un Dieu de lumière. Il y a un combat parce que le mal est entré dans la création. Alors, c'est le grand mystère. Mais le mal, il n'a pas commencé dans l'homme par l'homme. Le mal a commencé avant. Puisque quand Adam et Ève étaient dans le jardin, dans un jardin de délices, ils étaient dans un état de paix parfaite, de sérénité, d'harmonie avec Dieu. Mais voilà que le serpent, Satan, est entré. Ça veut donc dire que le mal, c'était avant la Genèse. Le serpent était déjà là. Alors, c'est très mystérieux. La Bible ne nous dit pas grand-chose, mais elle nous donne quand même quelques indications. L'origine du mal, c'est Satan. C'est le diable. C'est le grand mystère. Pourtant, Satan est une créature de Dieu. Toutes les créatures célestes, spirituelles, sont des créatures de Dieu. Nous le voyons dans l'Épître aux Colossiens, entre autres. Il a tout créé dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles. Dieu avait créé toutes ces puissances parfaites, ces créatures spirituelles. Mais voilà qu'un jour, Satan, cet ange créé parfait, cet ange de lumière, nous en avons quelques indications dans la Bible. Dans Ésaïe, au chapitre 14, dans Ézéchiel, au chapitre 28, créé parfait, il s'est élevé, dans son orgueil, il a voulu devenir Dieu, il a été précipité, il a dit que l'iniquité s'est trouvée en lui, le mal. Voilà l'origine du mal. Satan, ses anges, dans le ciel. Ensuite, le mal est entré sur la terre. C'est Genèse 3 qui nous le dit. Le serpent est entré et il a voulu amener avec lui dans sa chute l'homme. Et malheureusement, Genèse 3 nous le dit, il y a réussi. Il a séduit, il a tenté, il a amené à la désobéissance, il a séduit Ève, il a amené l'homme dans la chute, dans le péché. La grande catastrophe à l'origine de tous ces combats que nous allons avoir. L'homme était le chef de la création. Satan, en faisant tomber l'homme, va s'emparer de son autorité. Il va devenir le chef de ce monde. Il introduit dans le monde le péché, la mort. Et ce qui aussi, la nature de l'homme, cette nature humaine, notre chair, qui était parfaite, sans péché, eh bien Satan va y faire entrer le péché. C'est comme une mutation, comme un gène qui s'est fait, et ce péché, cette chair de péché, va se transmettre à toute sa descendance, puisque tous nous sommes nés de Adam et Ève. Et voilà, on commence à voir un petit peu les différents éléments qui vont faire que nous allons avoir un combat sur cette terre. Mais alors, Dieu a un plan de salut. Dieu a un plan de salut. Il veut tout ramener pour sa gloire. Il veut tout rétablir. Il veut tout restaurer. Et comment va-t-il le faire? Il l'annonce dès la Genèse, dès la chute, lorsqu'il annonce au serpent sa condamnation. Il y aura inimitié entre toi et la femme, entre ta semence et sa semence. Elle te brisera la tête, tu lui briseras le talon. Et voilà, c'est ce que le Seigneur Jésus a fait sur la croix. Il a brisé la tête du serpent, il a brisé sa puissance. Satan est un ennemi vaincu. Mais alors, non seulement Dieu va sauver l'homme par Jésus-Christ, mort sur la croix pour nous, mais aussi Dieu va recréer l'homme. Il va faire de nous un nouvel homme. Il va donner à l'homme une nouvelle nature. C'est Paul qui le dit. Nous sommes nés de nouveau. Nous avons la nature divine. Nous devenons enfants de Dieu. Il va nous recréer à l'image de son fils, second homme, dernier Adam. C'est le nouvel homme. Mais il y a un mystère. Pourquoi? Et ça, c'est Dieu qui le sait dans sa sagesse. Pourquoi dans ce nouvel homme qu'il a fait de nous? Pourquoi dans cette nouvelle nature parfaite qu'il nous a donnée, pourquoi laisse-t-il encore la vieille nature? La chair de péché est encore en nous. Et cela va être une source de conflit, de combat, non plus extérieur, avec Satan qui nous attaque, mais intérieur, avec le péché qui est en nous. Voilà peut-être un petit peu le cadre dans lequel on voit que se situe ce combat. On peut aussi remarquer que le livre de la Genèse, dès le début, nous montre que il va y avoir sur la terre deux lignées d'hommes, deux lignées. Et ça aussi, ça va être source de combat entre ces lignées. Il y a la lignée de la semence de la femme, la lignée de Christ, la lignée de la foi, arrachée au pouvoir de Satan. Et puis, il y a la lignée de la semence du serpent, tous ceux qui refusent le salut, qui restent sous son pouvoir. Et on trouve d'ailleurs en ébauche, dans le livre, rappelez-vous, le livre de la Genèse, au chapitre 4, on voit d'abord Caïn et toute sa lignée, et puis on voit à la fin du chapitre, comme toujours, dans ces choses sombres, un rayon de lumière, Seth, cet enfant qui est né, puisque Abel avait été tué, voilà Seth, et il est dit à propos de Seth, et on commença à invoquer le nom de l'Éternel, et puis il va suivre dans le chapitre suivant cette lignée de la foi. Donc, dans ce monde, il y a donc deux lignées, entre lesquelles il va y avoir un combat, et ça commence, Caïn tue son frère Abel. D'autre part, il y a aussi dans ce monde deux sphères, deux domaines. Il y a la sphère des croyants, du peuple de Dieu, dans l'Ancien Testament, Israël, et on connaît tous les combats qu'il a menés sur cette terre, qui pourront nous servir d'exemple. Et pour le Nouveau Testament, le peuple de Dieu, ce sont les chrétiens, ceux qui sont nés de nouveau, c'est l'Église, là aussi, deux sphères tout à fait antagonistes. La sphère de ceux qui ont refusé le salut, c'est le monde. Donc d'un côté, les croyants, l'Église, le monde, de l'autre côté, ceux qui restent sous le pouvoir de Satan, qui s'organisent pour vivre sans Dieu. Entre ces deux sphères, il y aura aussi tension, il y aura aussi conflit. Je propose maintenant de voir un tout petit peu ce qu'on peut retirer de l'Ancien Testament, c'est bien connu parmi nous, mais je propose de le survoler un petit peu parce que ça nous permet, à travers les images de l'Ancien Testament, de mieux comprendre certaines vérités, peut-être qui peuvent paraître un peu abstraites, du Nouveau Testament. Si on regarde les combats du peuple d'Israël, lorsqu'il a quitté l'Égypte pour entrer dans le pays de la promesse, Canaan, hein, puisque nous allons cet après-midi, Dieu voulant, voir ce combat de Éphésiens 6 dans les lieux célestes, Canaan, dont c'est une image. Alors, pour essayer de comprendre, voyons un petit peu ces images. Trois grandes périodes, trois grands combats. Traversée de la mer Rouge, Exode 14, puis traversée du désert avec le combat contre Amalek, puis entrée dans le pays de Canaan, où il y a une forteresse qui bloque tout ça, Jéricho, et dans le pays, il y a des ennemis qu'il va falloir combattre. La mer Rouge, Exode 14. Le peuple a été délivré de la mort la nuit de la Pâque, et voilà qu'il va falloir sortir. Sortir d'Égypte, ils étaient sous le pouvoir du Pharaon, tous les hommes sont sous le pouvoir de Satan, ils étaient esclaves des Égyptiens, image du monde, esclaves du monde. Grande puissance, ils ont voulu partir, et voilà que la mer Rouge est là, la mer de la mort. D'un côté, ils ont cette puissance, de l'autre côté, la mer Rouge, impossible de s'en sortir. Que faut-il faire? Tenez-vous là et demeurez tranquille. L'Éternel combattra pour vous. Ce premier combat, ce grand combat, pour être arraché au pouvoir de Satan, pour être arraché au pouvoir du monde, c'est Christ qui l'a mené pour nous. Comment? La mer Rouge, image de la mort, a été ouverte. C'est par sa mort que Christ nous délivre du pouvoir de celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Celui qui est le pouvoir de Satan va sur un être vivant jusqu'à la mort. Après, il ne peut plus rien. Christ est mort pour nous sur la croix. Ce combat, c'est lui qui l'a mené. Ce combat initial, nous n'y sommes pour rien. Nous avons simplement à l'accepter, à le recevoir par la foi, à le croire, simplement. Ensuite, eh bien, va commencer le chemin. Dès que la mer Rouge est traversée, ils sont dans le désert. Pour le croyant, sauvé, racheté, délivré, il réalise que le monde, c'est plus comme l'Égypte autrefois, il y avait les concombres, il y avait toutes sortes de choses qui lui satisfaisaient, maintenant, c'est devenu un désert. Il ne trouve rien pour lui. Mais Dieu va lui donner des ressources. Quand il entre dans le désert, tout en commençant, il lui donne de quoi manger, la manne, il lui donne de quoi boire, le rocher frappé. Voilà comme maintenant va le pèlerinage, le chemin du peuple dans ce désert commence. Et là, tout de suite, il y a un ennemi qui vient. C'est Amalek. Amalek était des tribus bédouines dans le désert, et on sait que Amalek, si on regarde les généalogies, était un descendant de Ésaü, le profane, l'homme charnel. Et là, par contre, dans ce combat, il va falloir combattre. L'Éternel dit au peuple qui devait combattre dans la plaine, dit à Josué qu'il combatte. Donc, Josué et le peuple doivent sortir les armes, doivent combattre. Et ça, c'est le combat que nous avons à mener dans le désert. Contre qui ? Amalek, c'est une image de Satan, de l'ennemi qui va nous attaquer tout au long du chemin. Il est dit, l'Éternel aura toujours la guerre contre Amalek. Il y aura la guerre de génération en génération. Celle-là, elle ne cesse pas. Et on peut voir dans ce combat contre Amalek, d'une part, le combat contre Satan qui nous, tout au long de notre chemin, qui va nous agresser au moment où nous sommes le plus fragiles, le plus faibles. Mais aussi, on peut voir le combat intérieur en nous, puisque Amalek est une image de l'homme charnel, de la chair, du péché en nous, de cet ennemi intérieur. Donc, tout au long de notre chemin dans le désert, nous aurons deux types de combats à mener, contre toutes les attaques de l'ennemi de l'extérieur, mais aussi en nous, contre cette chair de péché qui est en nous. Mais nous avons une ressource dans ce combat contre Amalek. Est-ce que c'est seul Josué et le peuple qui ont dominé? Non. Sur la colline, sur la montagne, il y avait Moïse, il y avait Aaron, il y avait Hur, symbole de toutes les personnes de Dieu Père, Fils, Saint-Esprit, qui sont là pour interpréter, pour mener le combat pour nous. Parce que il y a ce petit verset qui nous dit « L'Éternel aura la guerre contre nous. » C'est notre guerre, mais c'est la guerre de Dieu. Dieu est avec nous dans tous ces combats. Alors, ensuite, on peut terminer ces images de l'Ancien Testament, avant d'entrer maintenant dans le combat chrétien dans le Nouveau Testament, par l'entrée dans le pays de Canaan. 38 ans, 40 ans, ils ont traversé le désert, ils vont s'approcher de Canaan. Alors tout de suite, on peut dire, nous le savons pour la plupart, que Canaan est une image, pour nous, des lieux célestes où Dieu veut nous placer dès notre vie de chrétien sur la terre. Parce que quelquefois, on pense que Canaan, c'est le but final, c'est le paradis, c'est la maison du Père dans lequel nous entrerons après la mort et la résurrection. Non, Canaan, c'est une image des lieux célestes dans lesquels Dieu veut nous placer maintenant sur la terre. C'est l'épître aux Éphésiens. Il nous a bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes et il nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Voilà. Assis dans les lieux célestes, c'est notre position. Nos bénédictions dans les lieux célestes, ce sont les bons fruits du pays. C'est Christ dont nous devons jouir. Alors, pour entrer dans ce combat, dans le pays, il y a différentes étapes, je ne vais pas m'y arrêter, mais si vous vous rappelez un petit peu dans le livre de Josué, quelles sont ces différentes étapes? C'est d'abord le Jourdain, ensuite ils sont arrêtés un petit moment à Gilgal, puis la forteresse de Jéricho qu'il faut faire tomber, et puis ensuite il faut entrer, conquérir le pays, c'est les chapitres 1 à 13 de Josué, et ensuite il faut s'installer, partager, jouir du pays à partir du chapitre 14. Traverser le Jourdain, nous le savons, je n'y reviens pas trop en détail, le Jourdain, un fleuve de la mort, c'est la mort de Christ qui nous introduit. Dans la traversée de la mer Rouge, la mort de Christ nous fait sortir d'Égypte et nous introduit dans le désert. Dans le Jourdain, c'est une entrée triomphale dans le pays à la suite de Christ. Vous vous en rappelez, ils n'ont pas fait un pont, ils n'ont pas fait des radeaux. L'arche était devant, elle est entrée, les eaux se sont ouvertes, le peuple a passé, on a mis 12 pierres au fond de l'eau, on a sorti 12 pierres sur le côté, Christ est mort pour nous, je suis mort avec lui, Christ est ressuscité, je suis ressuscité avec lui. C'est quelque chose sur lequel nous devons toujours revenir. Si nous voulons avoir un christianisme sur la terre qui a ce caractère céleste, nous devons réaliser cela, je suis mort avec Christ, je suis ressuscité avec Christ. Puis ensuite, ils vont s'arrêter à Gilgal. Gilgal, c'est le lieu de la préparation pour le combat. Préparation pour le combat. Qu'est-ce qui va se passer à Gilgal? Vous en rappelez tous, je pense. La circoncision, mise de côté de la chair. C'est quand même curieux, parce que ils allaient mener un combat. Et tous les guerriers, eh bien, pour commencer ce combat, on va commencer à les blesser, à les amputer, à les rendre malades, à réaliser qu'il n'y a aucune force en eux, la force, elle n'est pas d'eux, la force est de celui qui est avec eux. Nous devons réaliser cela, qu'en moi, pour tous ces combats, il ne faut pas que je compte sur ma chair, il ne faut pas que je compte même sur les qualités humaines que Dieu m'a données. Tout faire, laisser le Seigneur agir. Puis, ils vont célébrer la Pâque, toujours revenir aussi à la Pâque, l'agneau, ça aussi, on en a besoin dans le combat, nous souvenir de ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous, comment le faisons-nous, comment célébrons-nous la Pâque, en particulier le dimanche, dans la Seine, aussi, cela va nous donner aussi des forces pour le combat, en revenant à ce que le Seigneur a fait pour nous. Ils vont ensuite changer de nourriture, ils avaient la manne, c'est fini, la manne c'était pour le désert. Maintenant, ils vont se nourrir des grains rôtis, du vieux blé du pays, il est dit du cru de Canaan. Nous devons aussi nous nourrir, pour le désert, d'un Christ terrestre, la manne, Christ des évangiles, mais aussi pour entrer dans les lieux célestes, nous devons nous nourrir d'un Christ glorieux, d'un Christ dans la gloire, Christ tel qu'il nous est décrit dans l'Épître aux Hébreux, dans l'Épître aux Éphésiens, dans l'Épître aux Colossiens. Voilà, nous devons être nourris de tout cela pour entrer dans le pays. Et puis, quand ils sont maintenant bien préparés, voilà que se présente, le combat va commencer, le chef de l'Éternel qui vient, son épée dans sa main, dans ce combat, Christ est devant nous, et il ne faut pas oublier la sainteté dans ce combat. Ôte les sandales de tes pieds, le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Donc Christ est devant nous, mais toujours marcher dans la sainteté pratique. Puis, voilà maintenant le premier des combats, pour entrer maintenant, ils sont devant Jéricho. Jéricho. Alors, Jéricho, c'était une forteresse apparemment imprenable. Jéricho, ça veut dire bonne odeur. Jéricho, c'était la ville des palmiers. On peut dire que Jéricho, ce sont les charmes du monde, extrêmement trompeurs. Jéricho était près du Jourdain, le fleuve de la mort. Jéricho était près de la mer morte. Ce sont les charmes, les séductions du monde. Ça peut être de grandes forteresses pour nous, entre les mains de Satan, pour nous empêcher d'entrer, de jouir du pays dans lequel Dieu veut nous faire entrer. Et pour ce combat, c'est par la foi. Par la foi, les murs de Jéricho tombèrent. Ils en ont fait le tour. 7 jours durent. Et le dernier jour, 7 fois, il y avait l'arche, il y avait les trompettes, Christ avec nous dans le combat, les trompettes, le témoignage clair, les trompettes retentissantes. Il faut aussi que notre témoignage dans ce monde soit clair, témoignage lumineux à la parole, à Christ. Et alors, les murs de Jéricho vont tomber. Ensuite, eh bien voilà, maintenant, les murs étant tombés, il va falloir qu'ils combattent contre les ennemis du pays, ils vont entrer, et au chapitre 14 du livre de Josué, ils sont installés. Si je fais juste cette petite incidence, c'est pour nous dire que on peut voir un parallèle entre la position que Paul décrit pour nous dans les lieux célestes et dans l'épître aux Colossiens, dans l'épître aux Éphésiens. Dans l'épître aux Colossiens, Paul nous dit, c'est surtout au chapitre 2, vous avez été circoncis avec Christ, la circoncision, qui nous évoque déjà Gilgal, vous êtes enseveli avec lui, mort avec lui, vous êtes ressuscité, vivifié avec lui. Mais ça s'arrête là. Dans l'épître aux Colossiens, vous n'êtes pas encore dans les lieux célestes, vous êtes sur la terre. Christ est en vous et le combat est devant vous. Dans l'épître aux Colossiens, on est à Gilgal, mort avec Christ, ressuscité avec Christ, le pays est devant et je dois combattre pour y entrer. Dans l'épître aux Éphésiens, eh bien, c'est différent. Dans l'épître aux Éphésiens, nous sommes en Josué 14. Nous étions morts avec Christ, nous sommes vivifiés, nous sommes ressuscités, nous sommes assis en lui dans les lieux célestes. En Josué 14, ils étaient assis, installés dans le pays. Nous y sommes. Il n'y a pas de combat. S'il y a un combat, le combat, c'est plus pour entrer. Le combat, c'est pour s'y maintenir. Et ça va être le combat que nous allons voir cet après-midi, je pense. C'est le combat de Éphésiens 6. Ce n'est pas un combat offensif. C'est essentiellement un combat défensif. Restez. Maintenez-vous là. Dieu vous a placé dans les lieux célestes. Restez-y. Voilà peut-être quelques-unes des indications que peuvent nous donner ces images de l'Ancien Testament. Et maintenant, je propose que nous continuions en voyant maintenant le combat du chrétien et ses divers aspects dans le Nouveau Testament. En nous posant ces questions, contre qui, contre quoi combattre, premièrement. Deuxièmement, connaître les tactiques de Satan qui nous attaque. Troisièmement, de notre côté maintenant, quelles sont les tactiques que doit avoir le chrétien attaqué? Comment répondre aux attaques. Ensuite, on peut voir un petit peu quelques différents combats du chrétien, et ensuite terminer par les promesses aux vainqueurs, parce que ce combat, c'est pour être vainqueur. Et cette victoire, c'est pas pour nous, ces couronnes qui seront données aux combattants victorieux, il les mettra aux pieds du Seigneur Jésus pour sa gloire et pour la gloire de Dieu. N'oublions pas, souvent, quand on parle du combat, on parle de nous, mais pensons aussi que c'est pour la gloire de Dieu dans les siens sur la terre. Normalement, c'était... Il faudrait que je m'arrête à quelle heure ? Ah bon, oui. J'avais un peu peur, moi. D'accord. Je vais essayer aussi. Voilà. Alors, les premières questions, contre qui, contre quoi combattre ? Eh bien, bon, on l'a souvent dit, hein, il faut identifier les ennemis, les obstacles dans la vie du chrétien. Alors, on l'a souvent dit, il y a les ennemis qui nous attaquent, mais c'est peut-être bon de nous en rappeler. C'est d'abord Satan et ses anges. Ces puissances spirituelles qui sont contre nous, qui nous attaquent dans les lieux célestes. Et c'est ce que nous allons voir, Dieu voulant, cet après-midi dans Éphésiens 6. Notre lutte, notre combat n'est pas contre le sang et la chair, mais contre la puissance spirituelle de méchanceté dans les lieux célestes. Puissance extrêmement grande, et Stéphane nous l'a dit, c'est un véritable combat cosmique, parce qu'il est sur la terre, mais il y a ces puissances dans les lieux célestes. C'est un combat qui nous dépasse, mais il faut faire attention, ça n'est pas un combat mystique, c'est un combat dans nos circonstances sur la terre, nous le verrons. Et puis, ensuite, il y a, ça c'est celui qui est contre nous, et puis il y a ensuite, maintenant, nous sommes, on l'avait vu un petit peu tout à l'heure, il y a autour de nous, c'est le monde. Il y a le combat contre le monde dans lequel nous vivons, le monde qui nous entoure. Alors, qu'est-ce qui peut faire le monde vis-à-vis de nous ? Il peut faire beaucoup de choses. Nous avons à craindre ses séductions, ses tentations. Dans la première épître de Jean au chapitre 2, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Entre autres, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Attention à ces ruses, à ces convoitises. Nous sommes dans le monde, certes, mais nous ne sommes pas du monde. L'amitié du monde est inimitié contre Dieu. C'est parfois difficile à réaliser cela, parce que nous aimons les hommes. Mais l'amitié du monde, c'est du système qui s'est organisé pour vivre sans Dieu. Nous devons aimer les hommes, mais faire attention de ne pas nous faire prendre dans leur système. Gardez toujours notre position d'étranger. Nous ne sommes pas du monde. Nous représentons Christ, nous sommes des étrangers, mais nous ne sommes pas du monde. Il nous séduit, il nous tente l'opposition, l'opposé. C'est son opposition, ce sont les persécutions. Vous avez de la tribulation dans le monde, Jean 16, la tribulation dans le monde. Le monde, dans Jean 17, le monde les a, dans la prière du Seigneur à son Père, le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. La haine, la persécution. Et dans 1 Corinthiens 4, Paul dit, nous sommes la balayure du monde. Et les actualités présentent tout ce que nous apprenons sur les chrétiens persécutés dans ce monde, nous le montrent bien. L'inimitié, l'opposition du monde que nous avons à surmonter. Alors, quels sont les secrets de la victoire sur le monde vis-à-vis de ses tentations, vis-à-vis de son opposition? Jean nous le dit dans la première épître au chapitre 5, c'est ici la victoire qui a vaincu le monde, votre foi. la victoire qui a vaincu. Restez dans la foi en Jésus-Christ, la foi en Dieu. Ne capitulez pas, ne cédez pas, restez ferme. C'est ici votre victoire qui a vaincu le monde, c'est votre foi. Nous l'avons vu d'ailleurs à Jéricho, les murs de Jéricho, il est dit, par la foi, les murs de Jéricho tombèrent. Cette image du monde, ces séductions qui veulent nous empêcher d'entrer dans les lieux célestes. Et puis, nous devons aussi penser que nous sommes, c'est aussi la foi d'un côté, mais aussi de réaliser que, en étant mort avec Christ, à la croix, il est dit que nous sommes morts au monde. Le monde m'est crucifié. Il ne faut pas que cela soit quelque chose de théorique, d'abstrait. Il faut que je le réalise dans ma vie de tous les jours. Attention, tu n'es pas de ce monde. Pour ce monde t'est crucifié. Tu es mort. Tu es un citoyen du ciel. Christ est ton sauveur. Christ est ton Josué qui te conduit. Mais fais attention de ne pas t'associer, t'allier à lui. Alors ça c'est, donc on a vu dans ces qui combattent, dans les lieux célestes, Satan et ses anges, sur la terre autour de nous, le monde dans lequel nous vivons, ses séductions et ses persécutions, et puis il y a ensuite le combat en nous, le combat en nous. Alors, je ne vais pas m'y arrêter longtemps, parce que c'est un combat qui est que nous avons tous, que nous aurons toute notre vie, c'est le combat de la chair contre l'esprit, c'est le combat contre le péché en nous. C'est ce combat de Romains 7 qui amène pour la lire « Ce que je veux faire, je ne le fais pas. Ce que je ne veux pas faire, je le fais. Misérable homme que je suis. » Il y a en lui, il y a dans cet homme-là un combat intérieur. Je vois dans mes membres une autre loi qui combat contre la loi de mon entendement. Galates 5 dit « La chair convoite contre l'esprit. L'esprit contre la chair. » Alors, le secret de ce combat, eh bien, le remède, c'est Paul qui nous le donne dans l'Épître aux Romains, au chapitre 6 et au chapitre 8. Christ, je suis mort avec Christ. Mon vieil homme a été crucifié avec lui. Je suis mort avec Christ. Crucifié avec lui. Mais, attention, mort ne veut pas dire qu'il n'existe plus, ne veut pas dire inexistence. Cette vieille nature est toujours en nous, nous l'avons vu. Qu'est-ce que nous avons à faire? Tenez-vous donc pour mort et vivant à Dieu. Le combat est fait, il n'y a pas de combat. Je crois qu'il y a un atelier sur « faut-il combattre contre le péché en nous ?» Non, le combat est mené. Je suis mort, mais nous avons à nous tenir pour mort. Et l'apôtre Paul nous le dit bien dans l'Épître aux Colossiens, que nous avons dépouillé le vieil homme, il est mort. Nous avons revêtu le nouvel homme, c'est Christ qui vit en nous. Mais ensuite, il faut en tirer les conséquences. Vous êtes mort. Eh bien, mortifiez vos membres qui sont sur la terre. Fornication, impureté, affection déréglée, cupidité, toutes ces choses, tous les jours, nous devons faire attention. On est très très sensible à tous ces caractères de la vieille nature chez les autres. Mais faisons attention à nous et aussi acceptons les remarques que ceux qui nous aiment nous font. Parce que aimer quelqu'un, ce n'est pas toujours uniquement lui dire tout ce qui va bien en lui. C'est aussi l'aider aussi à identifier en lui ce qui ne va pas et que nous ne voyons souvent pas nous-mêmes. Il faut donc mortifier nos membres. Alors, il faut renoncer aussi. Alors, on peut dire dans les Colossiens, la colère, malice, injure, tous ces caractères du vieil homme. Au fond, nous devons, dans notre vie, constamment dépouiller les habits, les guenilles, les haillons, les vêtements du vieil homme qui est toujours en nous. Nous devons les dépouiller, enlever. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Par contre, il n'y a pas que du négatif, il y a surtout le positif. Nous devons revêtir les vêtements du nouvel homme. Et c'est ce que on voit, je vais juste lire ce passage dans l'épître, dans l'épître aux Colossiens, au chapitre 3, dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 3, quand l'apôtre Paul nous dit au verset 10 que, ayant dépouillé le vieil homme avec ses actions, ayant revêtu le nouvel homme qui est renouvelé en connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé, voilà ce que nous sommes. Nous ne sommes plus le vieil homme, la vieille nature, elle n'est plus en nous, morte. Nous sommes un nouvel homme, vivant avec Christ, c'est le nouvel homme. Le temps qui est utilisé dans ce verset 10, c'est pas quelque chose, ça n'indique pas quelque chose qu'on va refaire tous les jours, c'est quelque chose qui est fait une fois pour toutes. Mais ensuite, il faut en tirer les conséquences. Alors, il y a les versets avant qui nous disent, verset 5, mortifiez vos membres qui sont sur la terre, on a vu ce qu'il fallait enlever, ces guenilles du vieil homme. Ensuite, renoncez-vous aussi à toutes ces choses, encore ces vieux vêtements du vieil homme, il faut les enlever. Mais ça ne suffit pas, il faut faire mieux. Il faut revêtir. C'est revêtir les vêtements du nouvel homme, c'est mettre les habits de Christ, les caractères moraux que Christ nous a montrés lorsqu'il était ici-bas. Alors, on les voit au verset 12. Revêtez-vous comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, d'entrailles de miséricorde, bonté, humilité, douceur, longanimité, vous supportant l'un l'autre, vous pardonnant les uns aux autres, si l'un a un sujet de plainte contre un autre, comme aussi le Christ vous a pardonné, vous aussi faites de même, et par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Les vêtements du nouvel homme, les caractères moraux de Christ, au-dessus de ces vêtements, il y a un manteau, c'est l'amour, qui couvre tout, l'amour de Christ. Voilà, c'est manifesté, c'est dans ce combat que nous avons contre la vie nature, voilà toutes les armes que nous avons et le combat que nous devons avoir tous les jours de manifester aussi ces caractères de Christ dans notre vie. Ensuite, arrêtons-nous un peu sur les tactiques de Satan pour nous attaquer. Il va nous attaquer sous deux formes et sous deux angles. On le sait bien. D'une part, c'est le lion rugissant. D'autre part, c'est le serpent séducteur rusé. Ses rugissements et ses menaces, ses séductions et ses ruses. C'est 1 Pierre 5 qui nous le décrit bien, n'est-ce pas ? 1 Pierre 5 au verset 8. Il rugit, il cherche qui il pourra dévorer. Il essaie d'intimider, de faire peur par les persécutions, par les souffrances. Que faut-il faire ? Résister, étant ferme dans la foi. Dans les Hébreux, Paul dit qu'il a, l'auteur de l'Épître aux Hébreux parle d'un grand combat de souffrance, de persécution. Les saints sont offerts en spectacle, opprobre du monde. Est-ce que ça ne nous fait pas penser aux martyrs du 1er siècle et encore de nos jours, Satan, le lion rugissant. Voilà une de ses façons d'attaquer les croyants. Et contre cela, eh bien, c'est tenir ferme dans la foi, dans la confiance en Dieu et en Jésus-Christ. L'autre aspect, c'est le serpent séducteur. C'est le serpent rusé. Paul nous le dit dans 2 Corinthiens 11. « Comme le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne soient corrompues et détournées de la simplicité quant à Christ. » Peut-être que Joël nous dira quelque chose aussi de ce combat dans les pensées, mais Satan, c'est le séducteur. C'est le séducteur. En Genèse 3, comment est-ce qu'il s'y est pris ? Il ne s'est pas présenté comme le lion rugissant. Il est entré comme le serpent séducteur. Il a séduit, il a tenté, il a présenté la convoitise, quoi Dieu a dit, et puis finalement, il a poussé Ève, il lui a montré ses beaux fruits défendus, il lui a essayé de lui suggérer d'avoir ce que Dieu ne lui avait pas donné, et puis ensuite, vous aurez la connaissance de savoir de ce que Dieu ne lui avait pas fait connaître, et puis ensuite, tu seras comme Dieu, d'être ce que Dieu ne les avait pas fait. Voilà à quoi nous amène par ses ruses l'ennemi, progressivement, il introduit le doute, la désobéissance, la mort. Éphésiens 10 nous dit, ce sont les artifices, les ruses du diable, faisons attention, soyons vigilants dans ce combat, il nous faut discerner, et comment le discerner, si ce n'est en étant près du Seigneur, en étant près de sa parole, pour identifier tout ce qui est présenté devant nous, qui peut avoir un bon aspect que le monde nous montre, mais derrière, il y a le serpent qui cherche à nous séduire. Et en 2 Corinthiens 11, Satan se transforme en ange de lumière. C'était d'ailleurs son origine, Lucifer, l'ange de lumière. Il égare ceux qui devraient être apôtres de Jésus-Christ. Le remède, être sur ses gardes, veiller, résister. Voilà donc les deux tactiques, semble-t-il, de Satan, le lion rugissant, le serpent séducteur rusé, l'ange de lumière. Alors, excusez-moi, j'ai perdu un tout petit peu le fil. Voilà, ça c'était la tactique de Satan qui nous attaque, le diable. Maintenant, eh bien, voyons un tout petit peu, avant de faire peut-être, de voir juste la liste ensuite des combats qui nous attendent, les tactiques du chrétien attaqué. Comment répondre aux attaques? Comment répondre aux attaques? Premièrement, toujours se rappeler que la force et la puissance sont dans le Seigneur. Fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. 2 Corinthiens 10, nos armes sont puissantes par Dieu. 2 Corinthiens 12, l'apôtre Paul, ma puissance s'accomplit dans l'infirmité. La puissance de Christ est en moi. Quand je suis faible, alors je suis fort. Attention, pas ma puissance, mais la puissance de Dieu est avec moi. Je puis toutes choses en celui qui me fortifie. Se rappeler que la puissance est en Dieu. Deuxièmement, il faut se préparer. Il faut toujours être prêt pour le combat. Il ne faut pas attendre. Il faut être prêt tous les jours. Nous devons être comme un bon soldat de Jésus-Christ, nous dit Paul dans 2 Timothée, le bon soldat de Jésus-Christ. Il ne s'embarrasse pas dans les affaires de la vie. Il accepte la souffrance, le renoncement. Pas s'embarrasser dans toutes les affaires de la vie. Et nous savons tous, surtout quand il y a beaucoup d'activités, à la maison, au travail, peut-être aussi dans beaucoup d'autres domaines, eh bien, faisons attention de ne pas nous embarrasser trop des affaires de la vie. Pas avoir un sac pesant qui nous empêche de combattre. Et puis aussi, c'est l'image de l'athlète, 1 Corinthiens 9, qui court dans le stade ou du lutteur. Il faut s'astreindre à un régime strict. Il faut mortifier son corps. Il faut l'asservir. Il faut se dominer. Il faut bien maîtriser ses besoins, son corps, pour être tout entier prêt pour le combat, pour la lutte, pour la course, pour le Seigneur. Alors, nous, que devons-nous faire dans ces combats? Les tactiques pour nous. Ah ben, il y a deux attitudes complètement opposées, il ne faut pas se tromper. Lorsque nous sommes ainsi tentés, ou bien lorsque le lion rugissant vient, eh bien deux choses. Soit résister et tenir ferme, soit fuir. Pas se tromper. Il y a de nombreux cas, très souvent il faut résister, tenir ferme quand Satan nous attaque. Jacques dit, résistez au diable, il s'enfuira de vous. Surtout quand il vient pour m'effrayer, le lion rugissant. Résistez à l'intimidation, à la peur. Résistez, étant ferme dans la foi, ne pas céder. Il faut résister aussi quand il vient avec ses artifices, ses ruses en Éphésiens 6, afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable. Résistez. Tenez ferme, c'est répété 4 fois, résister dans ces choses-là. Enfin, aussi dans le combat pour l'évangile, Paul dit aux Philippiens que j'apprenne à votre sujet que vous tenez ferme dans un seul et même esprit, combattant ensemble d'une même âme avec la foi de l'évangile, n'étant en rien épouvanté par l'adversaire. Donc, résister, tenir ferme, ferme dans la foi jusqu'au bout. Mais, à l'inverse, eh bien, parfois, il faut fuir. Parfois, il faut fuir. Alors, on le sait, je ne veux pas faire toute la liste, mais chaque fois que l'ennemi veut séduire notre chair de péché, nous attaquer par les convoitises de la chair. Dans ce cas-là, attention, fuir, pas résister, pas fuir. Paul dit « Fuyez la fornication » dans 1 Corinthiens 6. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Dans 2 Timothée 2, il dit « Fuyez les convoitises de la jeunesse ». Et on a ce bel exemple de Joseph. Quand il était chez Potiphar, quand il a été tenté par sa femme, elle s'adressait à ses convoitises charnelles, et ça on peut le dire, il a fui, il n'a pas résisté, il a fui. Eh bien, ces convoitises charnelles, qui sont peut-être aussi appelées les convoitises de la jeunesse, il ne faut pas penser que ce n'est que pour la jeunesse. Ça existe aussi tout au long de la vie. Il faut prendre garde à cela, de fuir ces convoitises-là de la chair. Il faut fuir aussi dans 1 Timothée 6. « Mets-toi, ô homme de Dieu, fuis ces choses !» dit Paul à Timothée. Quoi ? L'amour de l'argent. L'amour de l'argent aussi, ça peut être un piège. C'est pas uniquement l'argent, mais c'est l'amour de l'argent. Fuis-le. Ensuite, fuyez l'idolâtrie. Tout ce qui dans nos cœurs prend la place de Dieu, nous devons le fuir. Et chacun doit identifier, parce que c'est vrai que dans notre société, civilisation, idole, c'est plus du tout le sens que ça avait autrefois. Mais il faut le prendre pour ce que ça représente. Fuyez l'idolâtrie. Gardez-vous des idoles. Et puis, dans la tactique pour nous, il y a aussi des combats qu'il ne faut pas mener. Pas lutter contre les hommes. On l'a vu dans les Philippiens. Notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, pas contre les hommes. Mais c'est lutter contre les principes ou les séductions ou tout ce qui est derrière eux, mais pas contre les hommes. Combien de fois on s'est trompé dans les guerres de religion et autres. Pas lutter contre nos frères et nos sœurs. Pas de bataille, pas de guerre entre nous, dit Jacques dans son épître. Paul dans les Corinthiens, qu'il n'y ait pas de division entre vous. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faille pas se séparer de l'iniquité, qu'il ne faille pas ôter le méchant, se purifier des vases à déshonneur, reprendre ou faire taire les faux docteurs, rejeter l'homme sectaire. Mais pas contre nos frères et nos sœurs. Pas de lutte entre les croyants. Pas de lutte entre les croyants. Et enfin, ne pas participer au combat de ce monde. Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu. Mon royaume n'est pas d'ici. Faisons attention aussi, nous sommes des étrangers ici-là. Nous sommes des étrangers. Nous représentons notre maître, le Seigneur, le royaume des cieux. Alors, cela pose tout le problème de savoir aussi, dans les conflits, les combats du monde, les combats politiques, les associations, les pétitions, les manifestations, jusqu'où il y a des choses dont il faut s'abstenir, jusqu'où aller, ne pas aller, soyons prudents aussi, en pensant que nous sommes ici-bas des étrangers. Alors, je vais, pour terminer, oui, parce que je crois que je suis en train de dépasser mon temps, oui, mais quand même. Voilà. Alors, je termine par quelques aspects, c'est juste un petit, ça vous savez, peut-être un petit peu de canevas pour voir quels sont les différents combats du chrétien. Ils ne sont pas exhaustifs. Il y a certains combats du chrétien qui sont inévitables que vont rencontrer tous les chrétiens. D'autres concernent tel ou tel d'entre nous selon la souveraineté de Dieu dans sa marche. Alors, il y a un combat auquel on ne pense pas peut-être tellement. C'est vrai que ce n'est pas encore le combat du chrétien, mais c'est le combat inaugural. C'est avant le combat chrétien. Le Seigneur en parle dans Luc 13. Luttez pour entrer par la porte étroite, car beaucoup chercheront à y entrer et ne le pourront pas. C'est la lutte pour entrer dans le royaume. Satan ne veut pas laisser les siens changer de royaume. Il va donc faire tout pour nous empêcher d'entrer dans le royaume, d'entrer dans la porte étroite. Là aussi, il y a un combat, c'est avant le combat chrétien. Et nous savons que là, c'est l'amour de Dieu qui est le plan de Dieu, le conseil de Dieu pour nous, la grâce de Dieu qui nous appelle et qui nous permettra de mener ce combat inaugural. Et puis ensuite, eh bien, il y a aussi un combat que nous avons tous à mener, c'est le combat pour l'Évangile. Ne l'oublions pas, le combat pour l'Évangile, certains l'ont beaucoup à cœur, d'autres l'ont peut-être sans doute un peu oublié, c'est la première mission que le Seigneur a confiée aux disciples avant de monter au ciel. Allez, faites disciples toutes les nations. Allez dans tout le monde, prêchez à toute la création. Ce service amènera combat, souffrance, nous le voyons bien dans l'épître aux Philippiens. Et on voit aussi combien Paul, dans la deuxième épître aux Corinthiens 11, il nous décrit toutes ces souffrances pour l'Évangile. Il faut savoir que ce combat amène des souffrances et ceux qui participent le savent. Combat pour l'Évangile, il y a aussi le combat pour l'assemblée et l'édification des croyants. On voit que Paul combattait pour cela. Paul et Épaphras, c'est un très bel exemple. Paul et Épaphras, ils combattaient pour les assemblées de Colosse, Laodicée, Hierapolis, pour révéler le mystère de Dieu. Paul disait qu'il combattait, qu'il luttait, je travaille, je combats pour présenter tout homme parfait en Christ. Aussi ce combat que nous avons pour aider nos frères, nos sœurs, ou un ministère dans l'assemblée, pour révéler les conseils de Dieu, les mystères de Dieu, et pour l'édification des croyants. Épaphras combat toujours pour vous par des prières, afin que vous demeuriez parfaits, bien assurés dans toute la volonté de Dieu. Pensons aussi à cela, hein, à nos frères, à nos sœurs, à leur édification, à les aider quand ils sont découragés ou lorsque ils prennent une mauvaise direction, les aider. Il y a aussi, enfin, d'autre part, le combat contre les fausses doctrines et la vérité. Nous le verrons peut-être un petit peu cet après-midi en voyant 2 Corinthiens 10. Je ne m'arrête pas. Et puis, enfin, c'est le combat que nous allons voir aussi peut-être cet après-midi, c'est le combat de Éphésiens 6 contre les puissances spirituelles de méchanceté qui est dans les lieux célestes, mais je pense qu'on en parlera un petit peu ensemble cet après-midi, si vous le voulez. Pour ce combat, Dieu nous a donné une armure complète, l'armure de Dieu. Et je termine par les promesses faites aux vainqueurs. Il y a des promesses dans ce combat, il y a des promesses. La Bible se termine par cela, Apocalypse 2, Apocalypse 3. Dans nos combats, il ne faut pas mésestimer les forces adverses. Derrière, il y a un ennemi redoutable, Satan, puissant et rusé, mais avec nous, pour convaincre et pour combattre et pour vaincre, nous avons la puissance de Dieu Tout-Puissant, nous avons les ressources de sa grâce et de sa richesse, et que chacun puisse dire, à la fin de ce combat, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Et dans l'Apocalypse 2 et 3, nous voyons qu'il y a 7 promesses au vainqueur, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra, une promesse pour chaque église. Pensons-y aussi à cet aspect aussi que nous devons être des vainqueurs. Il y aura des couronnes et ces couronnes, ça ne sera pas pour notre gloire. C'est pas comme on met tous les trophées là quand on a gagné des coupes de tennis ou de foot ou de tout ça. On met tout ça sur notre étagère. Mais non, ces couronnes, dans l'Apocalypse, nous voyons que nous les mettrons aux pieds du Seigneur. Pour sa gloire, que le Seigneur nous donne de combattre le bon combat, le combat de la foi.